Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce dimanche 19 avril, en Australie, l'offre de masques et de doses de vaccins contre la grippe a augmenté. Appel à l'unité après l'escalade des abus raciaux et des attaques en Australie au milieu de la pandémie de coronavirus. En sport, l'entraîneur de tennis de Serena Williams lance un tournoi de 5 semaines à huis clos à partir du 16 mai. Le tournoi baptisé Ultimate Tennis Showdown aura lieu dans la région niçoise. En Australie d'abord, 3 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la grippe ont été obtenues, ce qui porte l'offre totale à 16,5 millions. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que le gouvernement fédéral pourra donner davantage de masques protecteurs aux travailleurs de la santé après avoir reçu plus de 58 millions de masques plus tôt que prévu.
The concern that if the coronavirus had grown dramatically, our hospitals would have been under intense pressure. At this point, Australians have done magnificently and we are not facing a threat to our hospitals. Now it's about securing the masks and the PPE, and today is an important part of that and laying the foundation for this week and the road out.
Le président de la Pharmacy Guild of Australia, George Tambasis, a déclaré que les doses supplémentaires de vaccins contre la grippe arrivent au moment propice.
There's been an extremely high demand from our patients certainly coming to community pharmacy wanting the flu shot. So we know last year community pharmacies and pharmacists working in our pharmacies vaccinated 2 million Australians. And we think it's not a long shot to think that we would get up to 3 million people vaccinated through our pharmacies this year.
Pendant ce temps, la première installation australienne de tests de masques sera établie à Adélaïde pour fabriquer des masques respiratoires. Plus de 20 millions de masques seront produits chaque mois pour lutter contre le coronavirus. Le gouvernement d'Australie-Méridionale a annoncé un financement de 450 000 $ pour le projet qui commence en mai. Les installations de l'Université d'Australie-Méridionale et de l'Université de Flinders permettent d'effectuer des tests sur place en Australie au lieu des États-Unis, ce qui peut prendre 3 semaines. Le premier de South Australia, Stephen Marshall, a salué le projet comme une initiative australienne.
I think it's great that we're going to have this testing facility in Australia. Don't forget we haven't had much manufacturing of these types of PPE items in Australia previously.
Le premier du Victoria, Daniel Andrews, s'attend à ce que les écoles de l'État restent fermées tout au long du trimestre pour empêcher la propagation du coronavirus. Le premier ministre Scott Morrison, lui, veut que les écoles rouvrent dès que possible. Daniel Andrews a déclaré sur Sky News que les élèves scolarisés pourraient contribuer à la propagation du virus.
If you've got hundreds of thousands of parents doing pick-ups and drop-offs, you've got a million students, tens and tens of thousands of teachers, a full complement, you will spread the virus. I think you'll also find many parents won't send their kids to school. So you can't run two systems. You've got to have move to online learning and then back that in, be consistent. And I'm really pleased to say we've got 3-5% of kids going to school. In some individual schools, it'll be a little bit higher, but this system is working.
La ministre australienne des Affaires étrangères, Maryse Payne, souhaite voir un examen indépendant mondial de la gestion de la Chine de la pandémie de coronavirus. Les ministres du gouvernement, dont Peter Dutton, ont critiqué la manipulation du virus par la Chine après que des responsables américains ont déclaré qu'ils étudiaient la possibilité que le COVID-19 s'est propagé à partir d'un laboratoire chinois plutôt que d'un marché d'animaux vivants. Maryse Payne a déclaré sur l'ABC qu'il devait y avoir plus de transparence sur le début de l'épidémie à Wuhan.
The genesis of the virus, about the approaches to dealing with it and addressing with it, about the openness with which information was shared, about interaction with the World Health Organization, interaction with other international leaders. All of those sorts of things will need to be on the table.
Un certain nombre de politiciens fédéraux disent qu'ils ne téléchargeront pas l'application de téléphone mobile pour aider le traçage de personnes qui ont été en contact avec un cas de coronavirus invoquant des problèmes de confidentialité. L'application Opt-in va nécessiter une participation de 40% de la population australienne pour fournir suffisamment d'informations utiles pour suivre la transmission communautaire du virus. Le député national et ancien vice-premier ministre Barnaby Joyce et le vice-président de l'Assemblée nationale, Lou O'Brien, ont déclaré à Channel 9 qu'ils avaient des inquiétudes concernant la confidentialité de l'application et pensaient que le logiciel n'était pas nécessaire car les actions des Australiens en ce moment même aidaient à aplatir la courbe du virus. Les dirigeants de la communauté sino-australienne ont exprimé leur crainte pour la sécurité des personnes de leur communauté après une série d'attaques raciales déclenchées par cette pandémie de COVID-19 lors d'un récent incident faisant l'objet d'une enquête par la police de Victoria. Deux étudiantes chinoises ont été agressées dans le centre-ville de Melbourne et sommées de, je cite, « retourner en Chine ». La présidente de la Fédération des associations chinoises, Yan Zixu, a déclaré que les attaques doivent cesser.
We do see a lot of incidents, such as neighbors start to abuse their Chinese neighbors. Also, people working on the road, someone will have a, you know, different attitudes towards them. And somehow people do feel in fear. And also they don't feel that safe in this environment. It's a critical time, and we want to see unity, and we want to see people support one another.
Les Australiens qui observent la Pâque chrétienne orthodoxe se lient à travers la cuisine familiale à une époque de distanciation sociale. Aki Daikos, fondateur de la boulangerie grecque Alevri de Sydney, déclare que l'entreprise a été inondée de commandes pour ce week-end de Pâque orthodoxe. Selon lui, c'est difficile de marquer Pâque avec des restrictions en place concernant le virus.
No one has sort of like experienced this thing before because we're used to obviously going to church, you know, our Holy Week, and we're really cultural, very spiritual people as well. And I guess, you know, the message that I really want to put out there is just, you know, do the best we can. I know it's hard times. You know, practice, you know, social distancing, you know, as much as you can. Really just enjoy those family times with your immediate family at home, and so we can pull through all this together for everyone, you know. Happy Easter of Kalyanas this year, as we say.
Les agences d'aide internationale déclarent que le confinement rigoureux au Vanuatu pour lutter contre le coronavirus entrave les efforts de secours critiques pour reconstruire le pays après qu'il ait été frappé par le cyclone tropical Harold. Près de deux semaines après le début de la tempête meurtrière, les médias locaux signalent que des familles sans abri dorment toujours en plein air. Le Vanuatu, l'un des rares pays sans infection confirmée du coronavirus, a introduit des mesures strictes de quarantaine, ce qui a ralenti l'acheminement de l'aide en provenance d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de la Chine. Emmaüs France lance un appel aux dons. L'association a besoin de récolter 5 millions d'euros pour aider quelques 20 000 personnes vulnérables. Écoutez le directeur de Emmaüs France, Jean-François Marie-Zuzek, sur RFI.
L'existence du mouvement est clairement menacée. Il y a un risque parce que l'autonomie financière dans laquelle nous sommes habituellement, en fait, est mise à mal de par l'arrêt quasiment total de l'ensemble des activités. En fait, il y a 210 structures aujourd'hui sur 290 qui sont à l'arrêt. Et donc, aujourd'hui, ces 20 000 personnes, en fait, ne peuvent pas avoir une activité de travail autour de la récupération, de la collecte et de la revente d'objets dans les boutiques solidaires telles qu'elles sont les plus connues par nos concitoyennes et nos concitoyens en France. Mais c'est une galaxie qui accueille les gens qui sont les plus en précarité. Ils prennent un ensemble de statuts qui va répondre à leurs besoins. Donc ça peut être des compagnons, ce sont aussi des salariés dans les structures d'insertion, chantier ou entreprise d'insertion. Et toutes ces personnes sont accueillies, sont des blessés de la vie, ont des grosses difficultés et donc on les remet à flot, on leur redonne conscience. Et aujourd'hui, c'est ça vraiment qui est en danger.
En France, toujours, et les étudiants sont eux aussi vulnérables. Ils sont fragilisés par les mesures de confinement. Reportage de Marie Casadebé pour RFI.
On a du thon et de la sardine.
On peut prendre les deux.
Une bénévole vient à la rencontre des étudiants qui patientent devant l'épicerie solidaire Agorae pour prendre leur commande.
Bah, je reviens après pour...
Toute l'année, l'épicerie permet aux étudiants les plus précaires de faire leurs courses pour quelques euros. Après avoir fermé à l'annonce du confinement, elle a finalement rouvert face aux nombreuses sollicitations des étudiants restés coincés à Paris et dont les difficultés financières se sont accrues. Céline Caron est la vice-présidente de l'Association Générale des étudiants de Paris.
Ils ne sont pas pris en charge dans les restaurants universitaires. Donc déjà, ça fait beaucoup plus de nourriture à acheter. Ensuite, il y a des activités qui s'arrêtent. Et pour les étudiants qui travaillent, ça s'arrête aussi. Donc forcément, il y a un revenu qui s'arrête. Et puis, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de chômage en temps partiel.
C'est le cas d'Ahmed. Il n'a pas pu rejoindre sa famille. Leur logement est trop exigu. Il reste donc confiné dans sa résidence universitaire, mais ne sait plus comment joindre les deux bouts depuis que son job étudiant a cessé.
J'effectuais des tutorats, etc. Tous les collèges, lycées ont fermé, je me retrouve sans activité. Et là, je me retrouve avec du coup que la bourse du Crous, 500 euros à peu près.
Ahmed repart avec un panier de fruits et légumes pour seulement 50 centimes. De quoi tenir jusqu'à la prochaine distribution dans une semaine.
La crise sanitaire révèle les fractures sociales en France, selon le dernier sondage Opinion Way et de la Fondation Jean Jaurès. Explication de Philippe Le Caplain pour RFI.
Si l'épidémie suscite une mobilisation massive des Français et des services publics, l'unanimité de façade recouvre bien des fractures. Le confinement n'a pas fermé la porte aux inégalités sociales et aux tensions politiques, bien au contraire, il les a aiguisées. Le télétravail est révélateur de cet état de fait. Sans surprise, les catégories favorisées, notamment les cadres, sont 44% à pouvoir le faire. À l'autre bout de l'échelle sociale, seuls 3% des ouvriers y ont accès, sachant que plus de 1 sur 2 est en chômage partiel avec la perte de revenus qui va avec. Inégalité territoriale également, près de la moitié de ceux qui vivent à Paris sont passés en télétravail contre 20% de ceux qui vivent dans le nord ou dans l'est du pays. Tout cela se retrouve dans les préférences politiques. Les électeurs de Marine Le Pen ne sont que 14% à télétravailler, alors que ceux d'Emmanuel Macron sont 4 sur 10 à pouvoir le faire. Autre enseignement, seuls 39% des Français font confiance au gouvernement, un chiffre qui s'effondre chez les électeurs du Front National et de la France Insoumise. Les experts de la Fondation Jean Jaurès estiment donc que pour le gouvernement, le déconfinement sera une nouvelle étape délicate car il lui faudra trouver une issue à une crise sanitaire, travailler pour limiter une crise économique majeure, tout cela pouvant rapidement déboucher sur une grave crise politique en cas d'échec.
Le Premier ministre français Édouard Philippe et le ministre de la Santé donneront une conférence de presse ce dimanche après-midi. Précision de Julien Chavannes pour RFI.
Pas de grandes annonces, plutôt une longue présentation sur la méthode, un exposé pédagogique pour tenter de cadrer la communication du gouvernement. Édouard Philippe donnera des éléments sur la stratégie du déconfinement, il mettra sur la table les options à trancher, mais toutes les incertitudes sur l'après 11 mai ne seront pas levées, et elles sont nombreuses. D'abord, comment sera organisée la réouverture des écoles ? Qui sera testée ? Quelles règles seront appliquées dans les transports ? Pour Matignon, il est encore trop tôt pour y répondre. Le travail est immense, la pression constante. L'annonce du 11 mai par Emmanuel Macron a pris tout le monde de court, sans compter la défiance d'une partie de la population qui ne fait pas confiance aux autorités. Édouard Philippe, ses ministres et le monsieur déconfinement Jean Castex ont maintenant moins de 2 semaines pour rendre leur copie. Un défi, reconnaît une ministre qui tempère les espoirs d'une sortie rapide. On est encore les deux pieds bien dans cette crise.
En Afrique, et on ne parle pas de virus, car au Mali, ce sera le deuxième tour des élections législatives ce dimanche. Un mot de sport, l'entraîneur de Serena Williams, Patrick Moratoglou, déclare que son académie de tennis lancera le mois prochain une ligue de tennis indépendante avec des professionnels jouant des matchs sans spectateurs, créée donc par Patrick Moratoglou et l'Australien Alex Popirin, qui est le père du joueur Alexei Popirin. L'édition de Ultimate Tennis Showdown vise à créer une nouvelle façon de montrer le tennis en l'absence des matchs de la WTA et de l'ATP qui ont été suspendus jusqu'à au moins mi-juillet en raison du coronavirus. L'Australien Alexei Popirin, 103e mondial, affrontera le numéro 10 mondial David Goffin lors du premier match. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie, à Perth, maximal de 23 degrés, Adélaïde 23 également, Melbourne 18 degrés, Hobart 16, Canberra 17, Sydney 20, Brisbane 27, Darwin 33 et à Alice Springs, maximal de 34 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 19 avril. En Australie, l'offre de masques et de doses de vaccins contre la grippe a augmenté. Appel à l'unité après l'escalade des abus raciaux et des attaques en Australie au milieu de la pandémie de coronavirus. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.